Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Lundi 27 juin, bienvenue à Cube Radio après cette longue fin de semaine. Alexandre Moranville-Ouellet avec vous de 9 à 10 heures. J'espère que vous en avez profité vendredi parce qu'il a fait super beau là, après une longue semaine, vraiment difficile niveau météo, beaucoup de pluie. Ça faisait du bien de revenir à tout ça. Parlant météo, il a fait très chaud aussi hier, très humide également. Ça va se calmer un peu niveau de température aujourd'hui, sauf qu'il va pleuvoir encore pas mal toute la journée. Sinon, pour le reste de la semaine, bien, la température va osciller là, de 30, entre 20, 30. Ça va être plus chaud, on va être bien. Ça va tout de même rester extrêmement humide d'ailleurs. C'est ce qu'Environnement Canada avait prévu pour le reste de l'été, donc on risque de devoir s'y habituer. Également hier, on va y revenir là avec Mathieu Boulay un peu plus tard, mais l'Avalanche du Colorado a remporté la troisième Coupe Stanley de son histoire. On a battu le Lightning de Tampa Bay avec Arturi Lehkonen, l'ancien du Canadien, qui compte le but gagnant. C'était beau de le voir hier soulever la Coupe. On le félicite et on félicite tous les joueurs de l'Avalanche. Si aussi vendredi dernier, c'était journée de réjouissance au Québec, ça l'était beaucoup moins aux États-Unis, surtout pour les Américaines. La décision, le jugement Roe versus Wade aux États-Unis qui garantissait le droit à l'avortement partout, dans tous les États, a été révoqué comme on s'y attendait, comme ça avait été annoncé par des fuites journalistiques un peu plus tôt là, dans le dernier mois. C'est extrêmement triste, je veux le rappeler immédiatement. C'est impossible de bannir les avortements. C'est simplement possible de bannir les avortements sécuritaires. Dans n'importe quel pays au monde où les femmes ne peuvent pas légalement avorter, elles vont le faire quand même, mais de manière beaucoup plus dangereuse. Et c'est une dérive extrêmement triste, extrêmement inquiétante également aux États-Unis. Puis pour ceux qui pensent qu'on est à l'abri ici au Canada, je veux rappeler qu'il y a des groupes, des mouvements de pression qui s'organisent et qui font chaque année de plus en plus de dons et au milieu politique et ailleurs, et du militantisme pour tenter ici aussi au Canada de combattre le droit à l'avortement. Et ça doit demeurer inquiétant pour tout le monde. On doit ne jamais prendre pour acquis ce droit-là ici au Canada. Sinon, également, ce matin, un autre sondage léger qui nous parvient, qui parle de la sécurité, ou plutôt du sentiment de sécurité, ici à Montréal, à Québec et dans les villes globalement, dans la province. Sans surprise, un sentiment de sécurité qui a descendu dans les 5 dernières années. C'est près d'un Montréalais sur deux à 47% qui considère que la sécurité de la métropole là, s'est détériorée par rapport à il y a 5 ans. Seulement 2% en comparaison qui pensent que ça s'est amélioré. Mais par contre, on a quand même 72% des Montréalais qui jugent toujours que c'est globalement en sécurité. 64% qui considèrent que la ville est toujours sécuritaire. Pour en parler avec nous, Alain Vaillancourt, qui est responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal. Monsieur Vaillancourt, bonjour.
Bon matin, Monsieur Moranville.
Premièrement, là, comment réagissez-vous là, à ces données-là? Est-ce que ça vous étonne de voir de tels résultats?
Bien, je pense que quand on regarde le sondage, de un, on va être toujours préoccupé si les gens se sentent pas en sécurité en ville. Je pense pour nous, c'est quelque chose qu'il faut s'attarder pour s'attaquer au problème. Donc, on le prend au sérieux. Mais comme vous avez dit, le sondage démontre quand même que en grande majorité, les gens se sentent eux-mêmes en sécurité à Montréal. Donc, dans le sondage, il y a quand même du bon. Mais il faut vraiment prendre au sérieux là, que dans les derniers 5 ans, que les gens se sentent moins sécuritaires. Puis c'est sur ça vraiment qu'on s'attaque là, présentement.
Ouais, vous y attaquez plus concrètement. C'est quoi les mesures, là, les dernières mesures là, en tête d'affiche pour tenter de rassurer là, les Montréalais et les Montréalaises?
Bien, je dirais que les mesures, c'est un problème qui est complexe. Hein? Donc, les mesures, eux, sont pas uniques dans une intervention. Présentement, on travaille très fort avec l'SPVM au niveau du terrain pour avoir une présence, vraiment optimiser la présence là, dans les secteurs chauds de Montréal pour cet été. Puis souvent, ce qu'on voit pas est très efficace par rapport au SPVM. Ils sont très, très, très actifs au niveau du recueil d'informations, les enquêtes. Ils font des arrestations. Il y a une grosse saisie historique là, à la fin du mois de mai. À toutes les semaines, il y a des saisies d'armes, des arrestations de membres de gangs de rue. Alors, les résultats sont là. L'SPVM est très actif. Alors, on les appuie à ce niveau-là. C'est tout au courant.
Ouais,
mais il y a aussi la notion de prévention hein, qu'il ne faut pas oublier, qu'on le voit moins, mais qui est primordial dans toute la lutte là, de la violence contre les armes à feu qu'on voit aujourd'hui.
Ouais, parce que la lutte se fait. On attend là, évidemment là, toujours avec impatience ces fameuses annonces de saisie, d'arrestation et autres pour avoir un élément plus concret, vraiment se mettre sous la dent. Mais si on parle là, du sentiment de sécurité, est-ce que vous pensez que des arrestations seules comme ça vont réussir à rassurer les Montréalais et les Montréalaises que leur ville est redevenue, du moins là, sécuritaire comme elle l'était avant? Est-ce que comment on compte, de votre côté, là, vraiment donner ce sentiment de bien-être, là, de sécurité en tant que tel? Est-ce que les annonces comme ça, seules d'arrestation, vont suffire, vous pensez?
Mais je pense qu'on a un devoir de démontrer à tous les Montréalais qu'il y a des actions prises, qu'on est sur le terrain, que oui, des arrestations se fait. Donc, il faut communiquer les bons coups que l'SPVM puis qu'on fait à travers du territoire. Mais, par exemple, à Rivière-des-Prairies, la semaine prochaine, on a déployé un gros... On était près de 20 agents là, communautaires sur le terrain. J'ai moi-même été là. On a fait du porte-à-porte dans les secteurs. La cavalerie était sur place pour... d'un, rassurer les gens pour démontrer ce qu'ils font et aussi recueillir de l'information là, par rapport aux événements qui ont eu lieu. Donc, c'est de démontrer aux citoyens, d'expliquer ce qui est fait, de démontrer une présence et les résultats qui sont là. Alors, vous allez voir ça au courant de l'été, là, que ça va être communiqué dans ce sens-là aussi pour rassurer les gens.
Oui, on va suivre ça avec impatience. Il y a également le 2. Catégories, si on veut, là, si on décortique un peu les chiffres des gens qui sont plus inquiets, qui se sentent moins en sécurité dans la métropole, chez les jeunes, c'est extrêmement représenté. Si on parle des 55 ans et plus, par exemple, à 80% ils se trouvent en sécurité ici à Montréal. Si on y va avec les 18-34 ans, là, une tranche de laquelle je fais partie, c'est à 66% on se sent pas en sécurité. Des 35 à 54 ans, c'est 69%. Qu'est-ce qui explique, selon vous, là, cette inquiétude chez la jeunesse? On sait qu'il y a quand même un lien avec les gangs de rue. Il y a eu beaucoup de violence, surtout au niveau là, de jeunes hommes qui ont été abattus, des mineurs, parfois. Est-ce que c'est le seul facteur qui explique ça? Comment vous expliquez que les jeunes soient plus inquiets?
Bien, comme j'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'on l'a vu pendant la pandémie, les réseaux sociaux, tout le monde nous dit que ça a été un gros facteur. Les jeunes sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la violence armée qui touche, qu'on voit dans les médias, là, qui est rapportée, touche surtout les jeunes. Donc, c'est certain que comme jeune à ton quartier, si tu vois ça aller sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans ton entourage, ça se parle, c'est certain que ce sentiment-là... est davantage préoccupant là, pour les jeunes. Peut-être en temps de 55 ans et plus, on se sent moins interpellé par ce qui se passe sur le territoire. Donc, c'est comprenable que les jeunes se sentent moins en sécurité. Mais et c'est surtout là notre notion de prévention, les actions qu'on prend, c'est ça vise surtout les jeunes.
Ouais.
Présentement, on a pas loin de 70 projets de prévention de la violence sur le territoire actif dans tous les arrondissements. On parle de médiateurs, de travailleurs de rue. On va développer aussi un projet avec la communauté, les écoles, le SPVM, un projet école, justement, dont on a un financement de 4 millions du gouvernement provincial. Donc, ça, présentement, on fait quelque chose, tout le monde ensemble, pour mettre quelque chose en place dans les écoles, pour toucher les jeunes au niveau de la prévention, puis justement là adresser leur sentiment d'insécurité. Donc, pour moi, c'est un peu prévisible, mais c'est quand même préoccupant.
Ouais, par contre, c'est quand même difficile, là, vous me faites penser, là, c'est beaucoup de projets de prévention, c'est difficile, par contre, de quantifier le succès, si on veut, d'une prévention. Là, oui, avec les chiffres globalement plus tard, mais souvent, ça se reflète pas là immédiatement. Avez-vous peur que tous ces efforts-là que vous faites au niveau justement de la prévention, croyez-vous qu'ils ont de la misère à se rendre, peut-être dans l'imaginaire collectif? Les gens le voient peut-être pas assez, ce que ça pourrait expliquer en partie? Parce que on parle beaucoup de résultats ensemble là, aujourd'hui, puis c'est évidemment, c'est ce qu'on veut. Là. On veut que la ville soit plus sécuritaire concrètement, mais d'un autre côté... est-ce qu'il n'y a pas un travail encore plus étroit, si on veut, à faire pour montrer aux gens ces efforts-là qui sont faits en prévention?
Mais on peut toujours être mieux à communiquer les efforts qu'on fait, ça je le constate, mais sur le terrain, les gens le sentent. Les projets dont je vous parle, c'est vraiment... les gens le voient, on occupe les parcs, il y a des travailleurs de rue, il y a toutes sortes d'événements qui se passent sur le territoire. C'est pour ça que le sentiment des Montréalais, eux, est quand même à 112-113%, parce que eux le voient sur le terrain. Le plus éloigné qu'on se trouve de Montréal, bien, le moins qu'on le voit, le moins qu'on constate les effets sur le territoire, mais les Montréalais, eux, le sentent, le voient. Puis il faut passer par là. Il faut absolument avoir la notion de prévention, autant l'intervention de l'SPVM. Là. Puis ils font partie aussi du programme de prévention de l'SPVM. Eux aussi, ils font partie de tous ces programmes-là. Donc, en travaillant tous ensemble, je pense qu'on a le devoir de faire dans les médias, mais on a le devoir aussi d'aller dans le moyen long terme. On peut pas s'en passer. Là, il faut absolument toucher les jeunes avant qu'ils tombent dans la spirale de la violence. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ouais. Puis on voit moi, je le vois sur le terrain. Je suis partout. Moi, je suis dans le Sud-Ouest. On a des bons programmes ici dans le Sud-Ouest. Je rencontre les jeunes, les travailleurs de rue, les agents. On le voit, tu sais, je connais des jeunes qui ont pu sombrer dans la violence, qui ont, à cause de nos programmes, s'en sont sortis. Alors, les parents le voient. Alors, je pense que ça se voit, mais je pense qu'on peut toujours le mieux communiquer. Mais je veux rassurer les gens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont déployés là, à travers de la ville, partout dans l'arrondissement et dans les points chauds. Et ça va continuer. Au courant de l'été, là, on va avoir des interventions, comme on a fait arriver à des prairies, dans d'autres secteurs. Donc, je veux rassurer que les gens, on va être présents puis on va être à l'écoute là, de leurs préoccupations.
Oui. Vous avez ouvert une porte ici parce que le sondage révèle autre chose également. Le sentiment, là, pas seulement des Montréalais, des Montréalaises envers leur propre ville, mais celle également des gens du reste du Québec. Et c'est un taux quand même, là, la perception de Montréal à l'extérieur. Vous le dites, c'est normal. Là. Je pense que quand on arpente là, tous les jours les rues de Montréal, comme vous et moi le faisons, on le sait qu'on n'est pas là, complètement au Far West, là, que ça ne tire pas là, partout, là, partout où on se trouve. Mais dans le reste du Québec, on dirait que c'est une impression qui revient. Il y a 36% des Québécois dans l'ensemble qui pensent que Montréal là, est sécuritaire seulement. Et ça tombe à 26% des gens qui en parlent de nos éternels rivaux de Québec, qui sont dans l'autre bout de la 40. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est justement cette représentation médiatique-là qui fait en sorte que les gens qui sont loin de Montréal pensent que c'est peu sécuritaire? Si vous aviez quelque chose à dire là, aux Québécois hors Montréal, aux gens de Québec à l'autre côté de la 40, qu'est-ce que vous leur diriez?
Ben, d'emblée, je dirais que c'est pas un nouveau phénomène. Hein. Ça a toujours été, si on parle de historiquement de la perception de le plus loin de Montréal, la perception de certaines choses, on peut parler à congestion, aux pistes cyclables, toutes sortes d'éléments. C'est pas nouveau ce phénomène-là, donc ça me surprend pas. Ben, je dirais aux gens de Québec, venez à Montréal. Ici, c'est une ville qui est sécuritaire. Les gens adorent Montréal. Les Montréalais, eux-mêmes, en majorité, se sentent en sécurité. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez très bien à Montréal. Puis je les invite à venir eux-mêmes pour ressentir la vitalité de Montréal, puis que vraiment, quand t'es ici, ben tu te sens en sécurité généralement. Par contre, faut pas nier le fait que dans certains secteurs, certains groupes se sentent moins en sécurité, mais j'invite les gens à venir eux-mêmes constater là, qu'on est très bien à Montréal.
Oui, c'est sûr qu'il faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut vraiment poursuivre là, ces efforts-là de prévention de la sécurité. Puis on va suivre tous les efforts là, que vous déployez, les projets de prévention et autres, surtout les arrestations, les résultats concrets, en espérant que ça vienne justement le renforcer, ce sentiment de sécurité-là, parce que Dieu sait que c'est important de se sentir en sécurité. Ça fait partie des besoins là, primaires de tout un chacun. Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellet.
Cube Radio. L'espoir.
Chased by McCarr. The dynasty will be denied. And a new legacy begins. They've reached the summit. 2022 Stanley Cup Champions.
C'est fait. Le Dragon a été vaincu. Le Lightning de Tampa Bay qui s'incline là, après deux conquêtes successives de la Coupe Stanley. Ils étaient à deux matchs d'en remporter une troisième. Mais finalement, Corey Perry, l'ancien du Canadien, après avoir perdu une finale avec Dallas, perdu une finale avec le Canadien, vient d'en perdre une avec le Lightning. C'est fait. L'Avalanche est champion. Mathieu Boulay qu'on rejoint presque à l'autre bout du monde, qui est à Wimbledon en ce moment. On va revenir sur le tennis, mais tout d'abord, Mathieu, ben, l'Avalanche a mérité sa victoire.
Hein? Ben, l'Avalanche a mérité sa victoire, puis la meilleure équipe a gagné, Alexandre, c'est-tu à mon avis. Et hier, encore une fois, l'homme des grandes occasions des séries éliminatoires pour l'Avalanche, Thierry Lehkonen, qui a encore marqué un but vainqueur, un but important. Comment je pourrais dire ça? Hier, c'était spécial parce que je n'ai pas vu le match. Parce que ici à Londres, on voit pas la ligne salle de hockey n'existe pas. C'est inexistant. Et là, j'ai vu, par exemple, les faits saillants, puis je suis vraiment content pour Thierry Lehkonen. Qui a marqué le but vainqueur. Puis la Coupe Stanley, il a mérite pleinement, ce gars-là. Il a travaillé tellement fort depuis qu'il est arrivé dans une salle de hockey. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Puis là, ben, il est récompensé. Puis là, évidemment, il n'aurait pas pu gagner la Coupe Stanley sans l'aide d'un gars comme Nathan MacKinnon, Cale Makar. Cale Makar, qui est le récipiendaire du tournoi Conn Smythe.
Ouais.
Il y a seulement quatre autre défenseur qui a plus de points que dans l'histoire des séries éliminatoires. C'est phénoménal qu'est-ce qu'il a réussi. Puis,
il est jeune.
Quoi? Moi, j'ai l'impression que Cale Makar, il est jeune. Puis, Cale Makar, je ne sais pas dans combien d'années on va. Quand il va signer son nouveau contrat ou n'importe quoi d'autre. Mais ce gars-là, je le vois vraiment gros. Puis, s'il n'est pas blessé, il peut avoir une des plus grandes carrières de l'initiale de hockey comme un défenseur similaire à. Des Paul Coffey, des Brian Leach. Puis moi, je pense qu'il est encore meilleur que ces gars-là parce que défensivement, il n'y a pas beaucoup de lacunes. Alors que les gars comme Paul Coffey, ceux qui faisaient beaucoup de points à la défense, il y avait beaucoup de lacunes défensives. Il y avait rien qu'un sens à la patinoire pour eux autres. Puis bien, en tout cas, moi, je suis vraiment impressionné par Cale Makar. Puis Nathan MacKinnon, comme je pensais, il a mis l'épaule à la roue. Et quelque chose qu'il faut que les gens remarquent aussi, que l'Avalanche du Colorado a gagné les séries éliminatoires avec deux gardiens de but et non pas un seul.
Ouais, ça
a pas été un one-man show devant le filet, là.
Ouais, c'est sûr, contrairement à, par exemple, le modèle du Lightning, disons plus classique, là, ou comme le Canadien avait l'an passé, là, un seul gardien qui est sur sa tête, qui fait des arrêts clés au bon moment. Mais là, à deux, se sont partagés la tâche, puis ça a été là, une recette gagnante, c'est sûr. Hey, pour les Lehkonen, c'est fou, là, je voulais juste revenir. Là. Rappelez-vous qu'au début de l'année, il jouait sur le quatrième trio de la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Et là, il se retrouve ce matin champion de la Coupe cette année avec le but victorieux là, derrière la cravate. Vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Puis Mathieu, avant de passer au tennis, je voulais te poser une question parce que moi, quand je regarde l'Avalanche du Colorado, là, je reste un fier partisan du Canadien de Montréal et je m'inquiète pour mon équipe. Puis je me pose des questions. Mais je regardais, là, en 2017, l'Avalanche du Colorado a fini presque bon dernier dans la Ligue. Une équipe qui allait nulle part, ça allait mal. Puis pourtant, en quelques années, on a réussi à redresser la situation puis sont maintenant champions de la Coupe Stanley. As-tu l'impression que c'est un départ comme ça, là, un renouveau est possible pour le Canadien là, avec le repêchage et tout?
Ben, je dirais que ça va être long que le Canadien. Là, si tu veux une équipe comme l'Avalanche du Colorado, ça va être long. Là, je pense que les gens à Montréal, il va falloir qu'ils se mettent ça dans la tête. les gens vont devoir se faire l'idée d'être patient. La patience, ça va être la qualité, la première qualité que les partisans du Canadien vont devoir avoir dans les prochaines années.
Ouais.
Tout simplement parce que là, maintenant, tu as un premier choix au repêchage cette année. OK, il va faire son petit bout de chemin. Après ça, il va avoir d'autres aussi choix de repêchage intéressants. Mais hey, avant que ces gars-là arrivent à maturité, ça prend 3 ou 4 ans. Des fois, c'est un peu plus tôt, mais
ouais.
T'as besoin d'une bonne défensive aussi, là. Romanov, faudrait que tu l'entoures. Faudrait que tu entoures Nick Suzuki aussi. Tu sais, oui, même si t'as Shane Wright, ça règle pas tous tes problèmes. Je pense que c'est un bon mélange. Puis ceux qui ont la recette Ken Hughes, il y a une recette en tête. Là.
Ouais.
Je sais pas si son gâteau au chocolat va être bon puis il va prendre. Là.
On l'espère,
mais
par contre.
Il a l'air d'avoir une recette.
Bon.
Hein?
Oui, on l'espère, là, parce que on espère que le gâteau va être bon, là, Mathieu. Moi, tu crèves ma bulle. J'ai pas envie d'être patient, mais va falloir l'être pour que le Canadien de Montréal soit de retour. Écoute, on entend beaucoup de bruit en arrière de toi, Mathieu, puis pas pour rien. Je le disais plus tôt, t'es à Wimbledon en ce moment et tu vas être là pour couvrir, là, nos Canadiens, Canadiennes qui vont jouer là-bas.
Tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Félix Auger-Aliassime en fin de semaine, Bianca Andreescu et Denis Shapovalov en marge du tournoi qui commence demain pour les trois. Aujourd'hui, en action, tu as Rebecca Marino qui joue présentement sur un court secondaire là, un peu plus loin d'ici. Là, présentement, j'ai essayé de trouver un Bianca Andreescu pour lui faire une brin de jazzette en prévision de demain. Les trois ont des matchs quand même assez faciles. À leur portée, ils devraient passer au deuxième tour, mais encore, il n'y a rien garanti. Il faut voir que les trois se présentent sur le terrain. Ça va être ça la plus grosse. Tu sais, des fois, il y a une journée que tu te sens moins bien, puis ça va moins bien. Mais j'ai bien confiance en Félix et en Bianca pour aller faire un bout de chemin dans ce tournoi-là. Et pour Shapovalov, c'est une question de confiance. S'il peut avoir une performance demain, il peut vraiment repartir sur les chapeaux de roue. Il a perdu ses 6 derniers matchs. Les 5 derniers tournois, il a participé, Shapovalov, il n'a pas gagné un match. Je ne sais pas si tu sais, mais la confiance, tu arrives ici à Wimbledon dans un tournoi majeur, où ce que là, c'est les 3 de 5, de 7.
Ouais, c'est long, c'est épuisant.
S'il peut bâtir... Ben, c'est ça exactement, mais tu sais, il ne peut pas dire qu'il est fatigué, là. Il est arrivé ici, il était frais comme une rose, là. Il est en pleine forme. Félix a joué un petit peu plus. Mais les gars, j'ai confiance qu'ils vont faire un bout de chemin. Mais là, à un moment donné, t'affrontes des têtes de série, t'affrontes des Nadal, ça peut être plus compliqué. Mais ici, là, je te dis, Alex, les gens sont contents d'être de retour et je vois pas un masque. Il y a quelques personnes qui portent un masque, mais en général, tu vois pas de... Il y a pas personne qui porte des masques.
Ouais.
Tout le monde est à visage découvert. Transport en commun. Sur le site ici, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est complexe, c'est qu'ils mouillent, ils vendent beaucoup. Et un peu frisquet, et je te dirais aussi, ils mouillent. Il a mouillé tout à l'heure, ouais. Et je m'attends qu'il va mouiller encore aujourd'hui. Il y a des gros nuages menaçants présentement. Et c'est une super expérience. Pour tout journaliste, là, tu rencontres des journalistes de partout dans le monde.
C'est, ben oui.
C'est en dessous des Olympiques, mais c'est aussi enrichissant. C'est un autre monde là, qu'est-ce que je vois ici.
Tu m'ouvres la porte, Mathieu, parce que c'est une question que je voulais te demander. Tu sais, toi qui es journaliste sportif, tu couvres des événements comme ça. Tu es un journaliste québécois, canadien. Là, tu te ramasses là-bas. Est-ce que tu sens, là, avec les années, là, comme le tennis canadien, nos Canadiens, nos Canadiennes deviennent de plus en plus forts, tu sais, compétitionnent à des niveaux extrêmement élevés. Oui. Est-ce que tu sens, est-ce que ça se ressent dans ton expérience de journaliste canadien? Est-ce que, tu sais, les collègues d'outre-mer sentent que tu es là pour couvrir des moments, tu sais, des athlètes importants? Est-ce que ça augmente pas ton prestige, mais disons, tu sais, ton influence quand tu y vas là-bas,
ouais,
vu que c'est son rendu important?
Je comprends ce que tu dis. Je vois ce que tu veux t'en aller avec ça. Je te dirais que les victoires de Bianca Andreescu, l'éclosion de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, je te dirais que ça a beaucoup donné de notoriété au tennis canadien. Là, maintenant, le Canada n'est plus risible sur la scène internationale. On a notre place et on n'a pas rien qu'un joueur ou deux, on en a trois. Et là, même quatre, parce que là, on oublie Leila Fernandez, qui n'est pas ici à cause d'une fracture du stress là, subie à Wimbledon, à Roland-Garros. On en a quatre ténors, là, c'est beaucoup. Puis quand on arrive dans les Coupes Davis maintenant, on arrive dans dans la Coupe Billie Jean King, le tournoi par équipe, on fait plus rire de nous autres. On est vraiment rendu respecté. Puis quand on parle, on vient du Canada, ah oui, Auger-Aliassime, Andreescu, on se fait souvent rappeler les mêmes noms.
Ouais.
Mais c'est le fun aussi parce que quand on voyage, les athlètes canadiens ou québécois, dans le cas d'Auger-Aliassime, sont très respectueux. Ils sont contents qu'on soit ici, ils sont contents qu'on rapporte ce qu'ils ont à dire. Puis ils sont très disponibles pour les médias aussi. Puis je te dirais, au niveau international, le nom du le Canada est vraiment de plus en plus respecté. J'aimerais ça aussi qu'après Leila Fernandez, qui est quand même jeune, j'aimerais ça qu'il y ait une relève. une relève. Tu sais que ça n'arrête pas là, là, parce que là, les autres sont partis au moins pour une dizaine d'années, mais on ne sait jamais que les blessures. Des fois, une dizaine de blessures met fin à la carrière un peu plus rapidement que prévu. Mais j'espère qu'on va avoir une longue... Pas une question de 10 ans, là, après ça, il n'y aura plus rien là, pendant 20 ans. Là.
Une bonne relève.
Une bonne relève efficace. En arrière de Félix Auger-Aliassime et de Chapeau Valla.
Ouais. Bon, ben écoute, du prestige. On est content d'en avoir comme ça à l'international. Tu vas être Mathieu toute la semaine à Wimbledon. On va couvrir ça ensemble. On va suivre le tennis puis le parcours de nos Canadiens et Canadiennes. Mathieu Boulay, gros merci. On s'en parle demain.
Merci. Bye-bye. Merci.
Alexandre Morin-Villouellet, journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Je retrouve mes collègues Julia Pagé et Rémi Villemur qui ont probablement fêté très fort la Saint-Jean-Baptiste. Écoutons leur petite voix fatiguée ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est plus vigoureux que je pensais. Je suis bien content. Écoutez, je le disais plus tôt, là, c'était une introduction un peu ludique à un sujet qui ne l'est pas du tout. Vendredi dernier, oui, on fêtait à Saint-Jean-Baptiste ici. Aux États-Unis, les Américaines, tout particulièrement, ne se réjouissaient pas beaucoup. Roe versus Wade, la décision qui protégeait, depuis 73, si je ne m'abuse, là, le droit à l'avortement aux États-Unis. Ce qui faisait, là, je mets nos auditeurs en contexte rapidement. Aux États-Unis, il y a plusieurs États qui avaient des mesures dites restrictives contre l'avortement. Là. Le Texas, par exemple, avait des mesures extrêmement sévères par rapport à l'avortement. C'est-à-dire qu'on pouvait se faire avorter là, à quelques semaines de grossesse seulement. Mais le droit lui-même à l'avortement était garanti, et ce, peu importe l'État. Maintenant, avec cette invalidation-là, de ce jugement-là par la Cour suprême américaine, on tombe véritablement avec un buffet à volonté, si on veut, pour les États qui, eux, veulent restreindre l'avortement. Julia, tout d'abord, là, toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir cette décision-là? On s'y attendait, là, ça avait déjà été là, coulé dans les médias, mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir cette décision-là vendredi?
Moi, je pensais que j'étais un peu immunisée aux mauvaises nouvelles avec les dernières années qu'on a vécues, mais visiblement, non. C'est comme très, très proche de nous. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'un futur dystopique de Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Ça fait penser à ça. Roe v. Wade, je l'avais un peu étudié à l'école, je suis en sciences politiques. Puis c'est vraiment intéressant de faire le contraste entre le contexte de l'époque et le contexte actuel. À l'époque, il y avait une grande majorité des juges, 7 juges sur 9, qui avaient décidé d'entériner Roe v. Wade. C'est vrai que ça avait été majeur, ça avait changé la vie de nombreuses femmes, évidemment, mais il n'y avait pas eu de grandes controverses, pas de grosses manifestations. Les gens étaient plutôt d'accord, ça allait dans la façon dont les choses évoluaient dans la société américaine. Disons, rien à comparer à, mettons, Brown versus Board of Education, qui parlait de la ségrégation, là, c'était assez majeur. À l'époque, on voyait ça comme un enjeu vraiment médical. On se disait, ben, la femme a le droit à sa vie privée et à son bien-être. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. C'est d'ordre culturel, d'ordre social, d'ordre politique. Puis c'est vraiment tombé comme une tonne de briques.
Oui, puis tu le dis, une division culturelle hein, aussi. Aux États-Unis, c'est un peu, si on veut, l'exemple parfait des polarisations en ce moment de nos sociétés là, qui se polarisent, je le dis là, vraiment, qui s'opposent d'un côté comme de l'autre, la gauche, la droite, que ce soit sur la culture, que ce soit sur la politique. Rémi, est-ce que c'est encore une fois un symptôme du déclin des États-Unis? Je pense qu'on en parle constamment. Donald Trump a été élu, on parlait du déclin des États-Unis. Avant lui, c'était le déclin des États-Unis. Crise économique, déclin des États-Unis. C'est comme une thématique qui revient souvent, mais on dirait qui comme un accident d'auto ralenti, là, se poursuit lentement, mais sûrement.
Oui, ben moi, c'est la lecture que je fais. Là. Je trouve qu'on est assez loin de l'idée qu'un auteur français que j'aime bien, Chateaubriand, se faisait de l'Amérique au début du 19e siècle quand il disait c'est le recommencement du genre humain. En fin de semaine, on a encore eu la preuve que, comme tu dis, Alexandre, l'Amérique est plutôt en déclin. Là, un déclin qu'on observe à mon avis, depuis la fin des années 90, là, au plan militaire, scientifique, technologique, économique, géopolitique, mais aussi au plan des idées et de l'expérience américaine à proprement parler. Aux États-Unis, on essaie de se trouver un projet de société et on trouve de moins en moins de compromis. Vous avez sur la côte ouest le wokisme qui est un peu l'équivalent de la discussion autour du sexe des anges là, à la chute de l'Empire romain. Puis vous avez au centre une certaine population qui se terre parfois dans ce qu'il y a de plus passéiste et antimoderne. Le pays est divisé. Puis, en fait, on dirait que le contrat social est déchu. Le rêve américain, ça fonctionne pas, en fait. Alors, on recule. Et on recule pas de 3 ans en arrière. Là. L'arrêt Roe versus Wade, c'est 1973. C'est 50 ans de progrès qui partent en fumée. Moi, ça m'a fait penser, en fin de semaine, à cette idée que, à un problème, en fait, d'après moi, qui est structurel aux États-Unis. C'est Tocqueville qui disait ça en 1830. Il disait, vous avez deux puissances. Vous avez la France et les États-Unis. Vous avez la France qui sépare l'État de la religion pour protéger l'État. Puis vous avez les États-Unis qui, eux, décide de séparer l'État de la religion pour protéger les religions. Résultat, ben, aujourd'hui, aux États-Unis, la religion l'emporte sur l'État. Elle empiète sur l'État. Et de cette façon-là, ben, sur le bien-être collectif des Américains aussi.
Oui, parce que un peu plus tôt, là, Julia, tu le mentionnais, quand on prend les États-Unis globalement, là, selon les sondages, les coups de sonde, puis Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, c'est des gens... majoritairement aux États-Unis, les gens veulent garder ce droit à l'avortement-là. Et pourtant, on se retrouve avec quoi? Ben, quelques juges de la Cour suprême des États-Unis, des juges qui, je le rappelle, sont nommés par des gouvernements, là, sont nommés, et pas pour un mandat, deux mandats renouvelables, revérifiables, qui sont nommés à vie aux États-Unis. Est-ce que la Cour suprême, on commence à voir un peu là, ses limites, là, j'allais dire le jupon qui dépasse, c'est presque littéral dans ce cas-ci, mais est-ce qu'on voit un peu les limites de la Cour suprême des États-Unis, Julia?
C'est absolument certain. Il y a plusieurs considérations. Bon, la Cour suprême ne va pas partir en fumée dans les prochains jours, mais ça la délégitimise. Pourquoi? Bon, première considération, peut-être un peu naïve, mais quand même, il y a le fait absurde que 9 personnes dont l'évidente majorité ne peut pas ou plus donner la vie puissent s'immiscer dans les choix reproductifs de millions de femmes. Il y a quelque chose de juste, si on le prend aussi simplement que ça, qui est juste complètement absurde. Il y a aussi le fait que la Constitution a été écrite sans les femmes. Donc, plus de la moitié de la population américaine qui subit des lois auxquelles elles n'ont pas participé. Donc, ça aussi, complètement ridicule. Et effectivement, ça arrive à un moment de l'histoire des États-Unis où les gens n'ont jamais été aussi pro-choix. Les derniers sondages américains parlent de 55 % de pro-choix, qui est un chiffre historiquement très élevé. Ouais. Et pour les 18-29 ans, qui est très intéressant aussi, c'est 70 % de pro-choix. Donc, ce que les sondages nous disent, c'est que la population américaine va dans cette direction-là et que la Cour suprême va dans la direction inverse. C'est un peu étrange et ça prouve peut-être que la Cour suprême, pas nécessairement n'a plus raison d'être, mais a peut-être un petit travail de conscience à faire et effectivement très politisé surtout en ce moment. Pourquoi? Parce que sur 9 juges, 3 ont été nommés par Donald Trump, président hautement controversé, on peut le rappeler, là, qui est à la source de l'assaut du Capitole du 6 janvier, ouais. Seul président à avoir subi 2 procédures de destitution. Et donc, c'est un président que plusieurs considèrent comme illégitime et pourtant qui a été instrumental dans la décision qui a été prise par la Cour suprême. Donc, je peux comprendre que certains Américains ne trouvent pas vraiment que la Cour suprême ait raison d'être en ce moment.
Oui. On va revenir aux solutions, tu sais, à qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là. Mais j'aimerais qu'on se transporte de ce côté-ci de la frontière un instant au Canada où ça semble... Là, t'sais, ça semble être toujours un droit acquis, mais les droits, on les croit acquis, puis je pense que c'était le cas des États-Unis, là, jusqu'à ce qu'il y ait cette fuite dans les médias que Roe versus Wade allait être invalidé, qui prenait ça pour béton, là, faisait 50 ans que c'était là, puis qui s'était maintenu. Ici au Canada, on pourrait un jour faire face à ce genre de débat-là, de dilemme-là. Il y a des groupes de pression qui font de l'activisme de manière constante contre le droit à l'avortement ici au Canada. Et toi, Rémi, là, la Cour suprême canadienne, vois-tu les mêmes problèmes que la Cour suprême américaine? Crois-tu qu'on on pourrait se retrouver dans une situation similaire?
Ben, je suis pas un juriste, là, mais je vois à peu près le même portrait de la situation. Là. C'est-à-dire on a un gouvernement des juges. Le gouvernement nomme des juges qui, eux, non élus, changent le cours de l'histoire. Donc, on a, par exemple, en ce moment au Québec... Il faudrait peut-être pas insister là-dessus parce que ça mettrait de l'ombre sur la nouvelle. Mais tu sais, avec la loi 21, la loi 96, qui ont été votées à l'Assemblée nationale, ça va être débouté en Cour supérieure ou en Cour suprême. Ça. C'est le même principe, en fait. Donc, la population ne vote pas pour des juges. Et les juges sont nommés par un gouvernement. Donc, ça peut se produire. Après, bon, je pense que le danger de voir l'avortement être menacé ici au Canada est peut-être pas le même qu'aux États-Unis. En fait,
non,
il n'est pas
sûr.
Le même. Mais le principe est le même. Le principe est le même.
Ouais, c'est fascinant de voir vraiment ce recul en arrière. Là, maintenant, solution. Il y a des manifestations, il y en a même eu ici à Montréal, il y en a eu au Québec, en soutien à ce qui se passe aux États-Unis, mais au final, c'est là-bas que les Américaines vont vivre le plus les conséquences. Il y a des entreprises, moi ça m'intéresse toujours beaucoup, parce que s'il y a bien une mecque du capitalisme sur la planète, c'est les États-Unis d'Amérique, et les entreprises ont un poids important, autant financier que dans les médias, règle générale. Et là, il y a déjà des entreprises, là. Il y a Meta, il y a Microsoft, là, pour nommer que ces deux géants-là, entre autres, là, qui eux ont déjà parlé de rembourser les milliers de dollars que ça pourrait coûter de se déplacer pour recevoir un avortement ailleurs, que ce soit dans un État qui va le prodiguer ou encore même ailleurs, je pense même au Canada ici. Les entreprises, qu'est-ce que ça peut faire, ce milieu-là? Pensez-vous que ça a un poids suffisant justement pour peut-être inverser le cours des choses, Julien?
Bien, en temps normal, moi j'ai toujours tendance à dire que la logique qui régit les entreprises, c'est-à-dire celle du profit, devrait pas être plus importante que celle de l'État qui est, en théorie, d'assurer le bon fonctionnement de la société et le bien-être du plus grand nombre. Je pense à ça surtout dans le cas de la cause environnementale, par exemple, oui. Où on met beaucoup sur le dos des entreprises, mais il faut légiférer aussi. Sauf que dans ce cas-ci, bon, visiblement, on peut pas nécessairement compter sur l'État non plus, mais les entreprises, il reste que leur fonction première, c'est de faire du profit et pas d'être des acteurs sociaux de changement. Donc moi, je leur mettrais pas trop de responsabilité sur les épaules parce qu'elles sont tout simplement pas organisées pour la prendre. Par contre, évidemment, dans l'idéal, ces entreprises avec énormément d'argent devraient avoir un rôle à jouer en société. Je pense pas du tout, par contre, qu'on peut compter sur elles pour que les États-Unis ne sombrent pas dans un enfer prochain. Mais bon, on peut toujours espérer.
Oui, parce que ça pourrait quand même créer là des précédents assez exceptionnels parce que, je rappelle, là, si l'avortement comme ça, là, dans certains États, est criminalisé, ni plus ni moins, c'est interdit. On peut recevoir là, des amendes, de la prison, des peines sévères, parfois, là, pour avoir pratiqué, subi, aidé, facilité un avortement. Il y a des entreprises comme ça qui vont peut-être même se retrouver au cœur de poursuites monstres, selon ce qui risque de se passer. Est-ce que ça pourrait être l'élément déclencheur, peut-être, justement, pour que ce débat-là explose, si on veut, dans les médias ailleurs, Rémi?
Ben, en tout cas, je me méfierais certainement de l'intervention d'un Mark Zuckerberg. Là, la dernière fois qu'il a décidé de nous aider, au début des années 2000, il a changé l'humanité au complet. Donc, moi, vous me permettrez d'être sceptique. Les entreprises américaines, les entreprises en général, ont pas vraiment rapport là-dedans. Puis, tu sais, je le note quand même, je savais même pas qu'elles avaient déjà eu l'idée d'intervenir. Elles sont quand même assez opportunistes. Hein,
il y en a beaucoup. Il y a Disney qui a dit la même chose. Puis là, on parle des géants Starbucks, Tesla, Yelp, Airbnb, Netflix, JP Morgan, PayPal, Reddit, des grosses entreprises, là, des noms extrêmement connus qui ont pas perdu de temps. C'est sûr, là, on va pas leur donner trop de crédit. Là. C'est les mêmes entreprises qui, à chaque fois, pour le mois de la fierté, ouais. Vont toujours là, afficher là, des petits des produits multicolores, des arcs-en-ciel sur toutes leurs photos, mais au final, qu'est-ce qu'ils font dans le reste de l'année? C'est à cela de demander. Je pense qu'il y a un opportunisme en même temps de faire sien cette opportunité-là, de prendre cette chance-là, puis d'utiliser le levier énorme et politique et financier qu'ont ces entreprises-là, ça peut peut-être aider là, à venir changer quelque chose. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon impression. Vas-y, Julia.
C'est sûr que peut-être que ça témoigne d'une chose peut-être plus large, et le fait que les entreprises prennent maintenant plus de pouvoir que l'État, si on le voit d'une certaine façon. Maintenant, on est obligé de se tourner vers autre chose que l'État pour espérer des changements sociaux. Juste ça devrait peut-être nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, Rémi.
Non, absolument. Puis, je veux dire, elle a bien raison, je dois dire que la logique d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, quand on les voit se draper là, de vertu comme ça, il y a quelque chose en arrière, il y a un agenda économique qui est bien dissimulée. Puis il ne faut pas oublier non plus que les entreprises, elles peuvent décider de montrer l'exemple, de jouer la bonne mère, le bon père, mais au final, ils essayent simplement de nous transformer en meilleurs consommateurs. Donc, ils sont en train d'essayer de dessiner un consommateur, celui de demain, qui va se retourner éventuellement vers leurs produits, simplement.
Là, nous, on est ici au Québec, au Canada, on se pose des questions, débat là, sur ces enjeux-là. On est proche des États-Unis, mais même quand on est plus loin de ce pays-là, leur présence sur la scène géopolitique a tellement été importante dans les dernières années qu'on n'a pas le choix de se retourner vers les États-Unis comme ce... Ben, règle générale, du moins, là, cette espèce de baromètre des droits humains, justement avec leur constitution... Là, à l'international, si nous, on se pose ces questions-là, qu'est-ce qui arrive à l'image américaine? Quel message ça envoie sur la scène internationale à ce pays-là qui a tenté de se positionner puis d'intervenir dans des pays, soi-disant, justement, pour venir aider les droits humains et les droits des femmes et autres?
Ben, je pense que les États-Unis perdent énormément de respect et d'influence, là, c'est certain. On regarde, par exemple, les pays qui sont censés devenir ou remplacer la puissance américaine comme superpuissance. On a, par exemple, la Chine, la Russie, l'Inde. Ce sont pas des pays qui, dans les dernières années, ont reculé de 50 ans au plan constitutionnel puis au plan des droits. C'est des pays qui progressent constamment. Donc, je pense que les Chinois, les Russes, les Indiens regardent ce qui se passe aux États-Unis puis ils rient, là. Ils disent, mais ça n'a pas d'allure. Ils sont même pas capables de protéger un droit acquis. Donc, ils ont aucun avenir sur la scène internationale.
Ouais, en même temps, c'est pas des. Faut dire ces trois pays que tu viens de nommer qui sont vraiment pas des figures de proue là, de ce genre de droit-là, quand même. Mais je pense que c'est juste.
D'accord, sauf que ça, c'est des soupçons qu'on a à chaque fois. Et je pense que c'est assez solide. Mais là, c'est ce qui fait la une partout dans les journaux en ce moment. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est pas ce qui est arrivé en Russie.
Oui, ça c'est sûr, parce qu'on s'attend justement à ce que les États-Unis fassent mieux, puis aident les droits humains. Ils sont censés faire partie, puis l'avortement, pour moi, c'est pas une question là, justement religieuse, c'est une question de droits humains, de droits des femmes. Julia, je vais te poser la question, justement, parce que tu représentes ce groupe-là dans notre société. Pour les femmes, là, puis on a vu leur colère, on a vu la frustration, on a vu des politiciennes aussi là, qui ont pris la parole pour condamner là, extrêmement fort puis de manière extrêmement émotive ce qui vient d'arriver. Comment tu penses que les femmes peuvent se réapproprier justement ce débat-là puis peut-être en faire une cause politique dans laquelle elles vont pouvoir triompher?
Ben, moi, je trouve ça assez dommage qu'en ce moment, les femmes soient plus ou moins confinées à la rue, aux manifestations, puis qu'elles doivent avoir recours à ce genre de moyens pour se faire entendre. C'est déjà un très mauvais signe dans une démocratie qu'elles ne puissent pas se faire entendre dans les plus hautes instances du gouvernement. Je pense aussi qu'en ce moment, on doit complètement arrêter de dire qu'est-ce que les femmes doivent faire, qu'est-ce que les femmes peuvent faire, qu'est-ce que les femmes veulent. Ça doit être une conversation globale, mondiale, mais qui dépasse les frontières du genre, parce que sinon, on s'en sort pas. Ça commence à être vraiment compliqué comme débat, et effectivement, ça dépasse à peu près toutes les frontières, parce qu'on voit des gens dans les organisations internationales dire, bon, quand est-ce que les États-Unis vont devoir rendre des comptes? Quand est-ce qu'on peut mettre tout sur le dos de la superpuissance puis de dire, bon, puisqu'ils ont une armée telle puis une puissance telle, ben, ils n'ont pas de compte à rendre pour des enjeux sociaux. C'est à tous ces niveaux-là de gouvernement et tous ces niveaux-là de la société qu'on doit agir, parce que c'est systémique, visiblement.
Ouais. Chose est certaine, c'est que ce droit à l'avortement-là, il y a encore des États qui vont pouvoir, là, ou dans lesquels les femmes vont pouvoir aller avorter. Puis ça va vraiment accentuer, je pense, cette division-là, ce clivage entre ce qu'on appelle les États bleus, les États rouges, les républicains, les démocrates, la droite, la gauche, des Américains progressistes, des Américains conservateurs. Je pense que si on voulait réussir à unir le pays, puis peut-être le redresser, les États-Unis, sur des enjeux, mais en ce moment, que ce soit la commission devant le Congrès pour l'assaut du 6 janvier sur le Capitole, l'avortement, d'autres débats là, importants, pressants qu'il y a aux États-Unis, mais il n'y en a pas un qui va réussir, malheureusement, j'ai l'impression, à unir les Américains. Vraiment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre parce qu'il va y en avoir des combats, il va y en avoir des manifestations, il va y avoir des coups d'éclat, là, des actions, du moins je l'espère, qui vont être faits chez nos voisins du Sud pour protester contre cette mesure-là. C'était notre seul sujet aujourd'hui parce que c'est le seul qui importe vraiment. Merci à vous deux, Rémi, Julia. On s'en parle demain.
À demain.
Alexandre Morinville-Ouellet. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage.
On est lundi d'une nouvelle semaine, sauf que ne pensez pas que les passeports, la crise qui retient l'attention depuis plusieurs semaines déjà, est terminée. J'ai le regret de vous informer que c'est toujours la cohue pour tenter d'obtenir son passeport. C'est difficile, on doit se présenter si on est là vraiment à la dernière minute, qu'on part bientôt en voyage. Et même là, malheureusement, il n'y a pas de garantie. On explique toujours mal et on attend les 1200 employés qui sont censés avoir été engagés par le gouvernement pour venir prêter main forte. Ce qui fait que les histoires de mes aventures des passeports là, se poursuivent encore et toujours depuis la semaine dernière. Il y en a qui ont de la chance, qui réussissent à obtenir leur passeport, d'autres qui parviennent pas à leur objectif. Mon collègue Louis-Antoine Lemire, qui est journaliste ici à La Recherche, à Cube Radio, journaliste pigiste également à l'agence QMI, lui a vécu sa propre mésaventure en fin de semaine. Louis-Antoine, bonjour.
Bonjour Alexandre, comment ça va?
Ça va super bien. Écoute, de ton côté par contre, je pense que tu dois être un peu fatigué parce qu'en fin de semaine, toi, t'as décidé que, pour ton passeport, puis on va commencer par le commencement, toi, c'est le passeport de ta fille que tu tentais de récupérer et là, ça fait déjà un bon moment que t'es pas capable là, d'avoir le passeport pour ta fille.
Exactement. Donc, moi, je me suis rendu au bureau de Service Canada en avril, la première semaine d'avril, avec sa mère pour remplir la demande, la donner. Évidemment, quand on fait ça à Service Canada, l'agence va vérifier que tout est correct. Et puis, on se fait dire que dans 8 semaines environ, nous allons recevoir le passeport par la poste. Malheureusement, les semaines ont passé, toujours rien. Et puis je dois t'avouer que la patience n'est pas ma qualité principale. Et puis j'avais vu dans les médias qu'un homme avait tenté sa chance au Nouveau-Brunswick en se déplaçant à Fredericton. Je me suis dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc le vendredi soir à 23h15, j'ai décidé de prendre la voiture et j'ai roulé jusqu'au Nouveau-Brunswick pour arriver là aux petites heures du matin, là à 6h là, sur place au Nouveau-Brunswick. Puis je te dirais, Alexandre, que je suis pas le seul à avoir fait ça dans la ligne, parce que quand je suis arrivé, il y avait déjà une vingtaine de personnes qui attendaient. Et puis dans les personnes qui attendaient, il y avait des gens de Laval, des gens de Montréal. D'ailleurs,
ah ouais, hein?
Oui, il y avait l'homme de Montréal. Lui partait, il était rendu à Belleuil et il avait reçu un appel d'un de ses amis lui disant qu'à Laval, il y a un petit peu d'espace pour des individus. Donc, rebroussé chemin, il est allé à Laval. Rendu à Laval, il s'est fait dire que malheureusement, on peut pas traiter sa demande. Donc, finalement, il est retourné vers l'est, évidemment, donc en direction de Fredericton pour espérer avoir son passeport, parce que cet individu-là, faut comprendre qu'il voyageait le jour même en Tunisie. Donc, il avait besoin de son passeport le plus rapidement possible.
Oui, donc c'est l'espèce de jeu, justement, là, où on se promène d'un bureau à l'autre pour tenter d'avoir son passeport. Parce que j'imagine, toi, t'es incapable d'avoir des nouvelles. On dit 8 semaines, mais il y a un voyage, ce que je comprends, de ton côté, là, qui s'en vient, là, qui est prévu, toi, au mois de juillet, c'est ça?
Exactement. Donc, moi, je pars le 18 juillet. Donc, sur place, honnêtement, je te dirais, Alexandre, ça va très bien là, là-bas. Comme je te disais, on est arrivé à 6 heures. Les bureaux ouvraient à 8h30. Donc, on est rentré à 8 heures quand même s'il pleuvait. Ils ont accepté d'ouvrir les bureaux. Donc, on fait la file à l'intérieur. Le personnel est courtois. T'sais, moi, j'avais pas eu d'expérience à Montréal et Laval, mais les gens qui ont vécu là, l'expérience là, dans divers bureaux ont mentionné que ça se passe relativement bien à Fredericton. Ouais. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'étant donné que mon voyage n'est pas dans les 24 à 48 prochaines heures, on ne peut pas traiter ma demande.
Donc, tu t'es rendu là-bas, là, t'as fait, c'est quoi, 12 heures de route environ? Fait 12 heures de route,
ouais,
finalement?
Oui, l'aller-retour, là, c'est 12 heures, donc c'est 6 heures. Là, moi, je pars de Lévis, là. Donc,
6 heures?
C'est 6 heures.
Ouais. Tout ça pour te faire dire, finalement, non, monsieur, vous partez pas assez bientôt, même si vous n'êtes pas garanti de recevoir votre passeport, il va juste falloir prier, espérer que ça arrive dans la poste un jour ou l'autre. C'est ça, globalement, qu'on t'a dit?
En fait, ce qu'on m'a dit, parce que là, je me suis obstiné un petit peu avec la personne, donc ce qu'on m'avait proposé au départ, c'est que mon dossier soit transféré au bureau de Frédéric Thune pour accélérer la demande. Donc, on voulait me donner un rendez-vous pour que mon dossier soit transféré. Donc, j'aurais pu avoir un rendez-vous ce matin. Mais là, j'ai mentionné à la dame, à l'agent, ben, si je transfère mon dossier, est-ce que je vais avoir le passeport en main le lundi? Donc, aujourd'hui, elle m'a dit non. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu veux que je me retape un 12 heures de route pour juste transférer mon dossier. Là. Donc, j'ai demandé à la personne, ben, trouve-moi un superviseur, là, il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire. Donc, finalement, elle m'a donné un petit billet, une petite ticket, pour aller dans la salle d'attente. Donc, dans la salle d'attente, j'ai pu rencontrer une agente, finalement, et l'agente a transféré mon dossier, ben, va transférer mon dossier au bureau de Frédéric Thune.
Okay.
Donc, dans la semaine du 11 juillet, je devrais recevoir un appel pour me dire que tout est beau, tes papiers sont corrects, et disons, le 13 juillet, ben, tu peux revenir chercher ton passeport. Donc, je vais devoir me retaper
un beau road trip. Ouais, ok.
Un beau road trip, ouais.
C'est complètement fou parce que, donc, je comprends que c'est parce que c'est plus rapide là-bas à Fredericton. Il y a moins de demandes. La densité de population n'est pas la même. Les gens veulent moins partir en voyage. Qu'est-ce qui explique là, là-bas? Qu'est-ce qu'on te dit pour expliquer que ce soit plus facile là-bas, par exemple, qu'à Montréal ou Laval?
Ben c'est sûr que les autres vont recevoir moins de demandes là. Évidemment, avec l'entrevue qu'on a ce matin, ça se parle de plus en plus. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a davantage de gens de Montréal, de Québec qui se déplacent à Fredericton pour trouver une solution. Mais je te dirais là, peut-être une cinquantaine de demandes par jour là-bas à Fredericton. Puis évidemment, quand on parle de Montréal, de Québec, là, c'est plusieurs centaines. Donc, ils sont capables de travailler plus rapidement, disons ça comme ça. Alors, c'est pour ça que ça nous laisse une petite chance, là, mais c'est sûr que de leur côté, ils sont plus achalandés qu'à l'habitude parce que de plus en plus de Québécois là, qui tentent leur chance au Nouveau-Brunswick. Moi, c'est une chance. Je ne savais pas en partant. Je me suis dit, dans le pire des cas, comme tu mentionnais tantôt, c'est un road trip.
Ouais.
Évidemment, c'est sarcastique. Le gaz n'est pas cher en ce moment.
Oui, ouais, c'est ça. Hein? C'est heureusement qu'on peut remplir là, son essence à un prix modique. Je vais utiliser les termes respectueux. Écoute, Louis-Antoine, c'est toute une mes aventures. Moi, j'ai avoir la chance, là, évidemment, de suivre tes périples et je les rapporterai ici, c'est-à-dire là, à savoir si tu vas réussir à avoir le passeport de ta fille avant ton voyage de mi-juillet. Je pense que ça se peut là, que ça arrive là, à la dernière minute. Rien pour aider ton stress, ni ton portefeuille avec l'essence que tu vas devoir utiliser pour rouler jusque là-bas à nouveau au mois de juillet. Écoute, Louis-Antoine, merci de nous avoir conté ta mésaventure. Meilleure des chances pour trouver ton passeport. Puis on a une petite pensée pour tous ceux et celles qui sont dans la même situation que la tienne et qui ont un voyage là, urgent qui s'en vient bientôt. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Alexandre. À la prochaine.
À la prochaine. C'est tout pour notre émission aujourd'hui. Une heure, ça passe vite lundi. On est déjà notre deuxième semaine. On s'est remis dans le bain rapidement. Beaucoup d'enjeux à suivre cette semaine. Oui, les passeports, l'avortement et autres. Donc, on va être avec vous jusqu'à vendredi, jusqu'à jeudi plutôt, parce que vendredi, c'est la fête de la reine. Nous serons en congé, tout comme la semaine dernière. Je passe le micro à mon collègue Alexandre Dubé. À demain.
Cube Radio.